Saint Augustin, 354-430. Le baptême de Saint Augustin. Cet ardent Africain était venu en Italie, attiré par la civilisation romaine. Tagaste, où il était né, n'avait pu longtemps lui suffire, ni même Carthage. Il lui fallait Rome, ou quelques-unes des grandes villes latines. La compagnie des philosophes, des rhéteurs et des poètes, les fêtes, le luxe, la vie raffinée, les mœurs indulgentes, le spectacle du monde entier, aperçu dans les yeux, dans les conversations et les libelles des maîtres de la terre. Il était né d'une mère chrétienne, mais selon la déplorable habitude du temps, il n'avait pas été baptisé dès sa naissance. Et il ne l'était point encore à l'âge de 30 ans, lorsqu'il arriva à Milan, précédé d'une grande réputation. Le préfet de Rome, Symmaque, l'envoyait aux Milanais comme professeur d'éloquence, c'est-à-dire non seulement pour être parmi les jeunes hommes un maître de la parole, mais comme une gloire des lettres, une grande puissance intellectuelle, capable d'exercer une influence sur toute la société humaine qui pensait latin. Depuis longtemps, Augustin avait rompu avec le catholicisme. Il le connaissait mal et n'était nullement disposé à s'y réengager, car il savait du moins que c'est là une religion qui veut que l'âme domine les sens, et comme le devait dire plus tard Jean de Maistre, une religion réprimante. Le désordre de ses mœurs lui conseillait d'ignorer, et avec quelle force, la doctrine qui nous sauve de nous-mêmes. Cependant, comment vivre sans la vérité? Ce grand esprit ne le pouvait pas. Il l'avait quittée et il la cherchait encore, passant d'une erreur à l'autre, voyageur qui reprenait son chemin lorsqu'il avait pu voir que la terre de sa halte n'était pas habitable. Au moment où il arrivait à Milan, Augustin appartenait à la secte des Manichéens et la puissance apostolique qui était en lui se dépensait pour la propagation de l'hérésie. Les dons merveilleux que cet homme avait reçus ne pouvaient demeurer en repos. Ne servant pas l'Église, il servait contre elle. Mais la paix manquait à son âme. Que de traits apparents à des hommes de notre temps, c'est Augustin d'avant le baptême. Curiosité de toute chose, sauf de l'Église de Dieu, celle-ci n'étant qu'un souvenir, un sujet de trouble qu'on évite. Perpétuelle activité de la pensée autour des problèmes de la littérature et du forum. Déception quotidienne, cordialité naturelle au milieu d'une société mêlée et qu'on méprise, tendresse dans l'amitié et dureté à l'endroit de l'exemple, goût de toutes les élégances, inquiétude à la vue du monde qui se dissout et des barbares menaçants, comme il est voisin de nous. S'il n'avait pas tant de génie, nous serions tentés de dire « plusieurs lui ressemblent ». Une certaine renaissance du paganisme a rendu la comparaison plus juste encore. Le plus récent biographe de Saint Augustin, Louis Bertrand, a parfaitement vu et exprimé ce caractère de modernité de son héros. Je cite « Nous sommes tout près de conclure qu'à l'heure présente, il n'est pas de sujet plus actuel que Saint Augustin. Avec quelle justesse il a de même expliquer la longueur de ces débats entre Augustin et le siècle, entre Augustin et le passé d'Augustin. S'arracher à ce matérialisme des mœurs, à cette corruption à la fois très subtile et très brutale, comme ce devait être pénible. On comprend les hésitations, les luttes, l'agonie morale d'Augustin à la veille de se convertir. Mais c'était peu que de rompre. Il fallait encore se purifier l'âme de tout ce que la corruption ancienne y avait amassé de mauvais ferments. Il s'agissait vraiment pour lui d'une seconde naissance, de créer en lui de toutes pièces l'homme nouveau de l'Écriture. Le miracle de sainteté, c'est que cet homme, si profondément corrompu dans son intelligence et sa volonté, devint un modèle de charité et un docteur de l'Église. Je ne connais pas de plus haut exemple de cette alliance de la foi et de l'amour divin avec la raison. Fin de citation. Dès son arrivée à Milan, le nouveau professeur d'éloquence avait été rendre visite à l'évêque, connu dans l'univers comme une grande âme. Et de ce jour, il s'était pris à l'aimer à cause de l'accueil qu'il avait reçu de lui. La sympathie pour l'homme, la curiosité littéraire furent donc, ainsi que je l'ai dit, les raisons apparentes, les seules, dont il eut conscience, qui l'amenèrent et le ramenèrent vers Ambroise. Cependant, peu à peu et malgré lui, les explications de l'Écriture sainte qu'il entendait réfutaient ses objections manichéennes. Les exhortations morales touchaient son cœur. La démonstration de la liberté humaine pénétrait en lui et commençait à remuer le souvenir des fautes passées et des fautes présentes. Des phrases jetées çà et là dans le livre des Confessions marquent les degrés par où cet esprit magnifique passait de l'erreur à la vérité. Je cite « Encore que je ne connusse pas si la doctrine catholique était la véritable, j'avais maintenant la certitude qu'elle n'enseignait point les choses dont je l'avais chargée. Je me disais « Cherchons avec plus d'ardeur, ne désespérons pas. Voici déjà que des passages des livres saints, que je trouvais absurdes, ont cessé de me paraître tels. On peut les entendre dans un sens qui est loin de choquer la raison. La vérité n'est pas victorieuse en moi, mais elle n'était plus vaincue. » Fin de citation. Augustin se décida peu à peu à rompre avec les manichéens sans se déclarer encore catholique. Il attendait une clarté plus certaine. Elle venait par degrés. Une sainte femme en suivait les progrès. Monique, mère d'Augustin, qui dès 384 avait rejoint à Milan son fils, pour la conversion duquel elle vivait uniquement, priait et se mortifiait. L'évêque de Milan souhaitait aussi l'entière conversion d'Augustin, et ils étaient deux saints qui poursuivaient celui qui s'est appelé le fugitif de l'éternelle providence. L'ambition de Monique était de convertir son fils et de le marier. La volonté de Dieu était qu'il devint prêtre. Pour faciliter le mariage auquel Monique songeait pour son fils, on parvint à séparer Augustin et a éloigné la femme avec laquelle il vivait depuis 10 années et qui lui avait donné un enfant, Adéoda. Ce fut une résolution où la vertu n'eut point de part, mais qui rendit plus aisée l'entrée dans la vie chrétienne. Cette femme retourna en Afrique. Dès qu'elle y fut rendue, elle fit vœu de n'aimer plus aucun homme et elle tint parole. Il fallut déchirer le cœur où elle avait racine, disent les confessions, et la blessure saigna longtemps. La vie d'Augustin ne fut pas tout de suite transformée. Il n'avait pas entendu vivre désormais d'une vie chaste, et une autre femme prit la place qu'avait laissée l'Africaine. Mais le sacrifice qui restait à faire devait être moins rude, étant demandé à une âme qui avait déjà rompu avec sa jeunesse. Les discours d'Ambroise à son peuple continuaient d'éclairer Augustin. Ils prirent une autorité plus grande pendant les jours tragiques où l'évêque, enfermé dans une de ses églises avec un grand nombre de fidèles, était guetté et menacé par les troupes de l'empereur. Puis quand ces jours furent passés, de nombreux exemples de conversion au catholicisme sollicitèrent Augustin. Ses objections tirées de l'existence du mal, les superstitions de son esprit qui croyait encore aux astrologues, ses erreurs touchant à la nature de Jésus-Christ que jusque-là il avait pris pour un homme d'éminente sagesse et non pas pour un dieu, tout s'effaçait peu à peu. L'orgueil du pauvre savoir diminuait, l'insuffisance des philosophies humaines lui apparaissait, et cette chose si opposée au paganisme lui était révélée, l'humilité. Un vieux et saint prêtre de l'entourage d'Ambroise, Simplicien, lui raconta la conversion de Victorin, rhétor illustre de Rome, adonné au culte des idoles jusqu'à un âge avancé, et qui s'était déclaré chrétien lorsque la conviction eut été faite dans son esprit avec un courage admirable, sans craindre le monde où il était quelqu'un. Ce courage touchait extrêmement Augustin, qui n'avait plus guère qu'à l'imiter, car les disputes de l'esprit étaient à peu près finies, et beaucoup moins que la foi, la générosité du sacrifice lui manquait encore. On voit combien l'exemple de Victorin fut puissant sur lui. Dans le livre où il a dit chaque période de sa jeunesse et de son ascension vers la vérité. Voici, d'après les confessions, la fin du récit de Sulpicien. Je cite. Puis, quand l'heure fut venue de faire la profession de foi qui consiste en certaines paroles retenues de mémoire et que récite ordinairement d'un lieu plus élevé en présence des fidèles de Rome, ceux qui demandent l'accès de votre grâce, les prêtres, ajouta Simplicien, offrirent à Victorin de réciter ces formules en particulier, comme c'était l'usage de le proposer aux personnes qu'une solennité publique pouvait intimider. Mais lui, il aime à mieux proclamer sa foi en présence de la multitude sainte. Car ce n'était pas le salut qu'il enseignait dans ses leçons d'éloquence, et pourtant il avait professé publiquement. Il monta. Son nom, répandu tout bas par tous ceux qui le connaissaient, éleva dans l'assemblée un murmure de joie. Et de qui, dans cette enceinte, n'était-il pas connu? Et la voix contenue de l'allégresse générale frémissait. Victorinus, Victorinus! Un transport soudain à sa vue avait rompu le silence. Le désir de l'entendre le rétablit aussitôt. Il prononça le symbole de vérité avec une assurance admirable et tous eussent voulu l'enlever pour le mettre au fond de leur cœur et tous l'y mettaient. En effet, et les mains qui le portaient jusqu'à eux, c'était leur joie et leur amour. Fin de citation. N'est-ce pas qu'il est rentré dans ces phrases d'Augustin quelque chose de l'ardeur et de l'émulation avec lesquelles il entendit Simplicien parler de la conversion du célèbre Romain? D'autres conversations et d'autres exemples achevèrent de le toucher. Un des principaux officiers militaires du palais, comme Augustin originaire d'Afrique, était venu le visiter, trouva sur une table de jeu un volume. Ce volume, c'était les épîtres de l'apôtre saint Paul, et comme l'officier était chrétien, il se mit à parler des merveilles opérées par la foi, et surtout de la vie de saint Antoine, solitaire d'Égypte, et des autres anachorètes. Augustin comparait silencieusement sa vie avec la pénitence et la joie paisible de ces chrétiens. Il en était troublé jusqu'au fond de l'âme. Une plus puissante invitation de la grâce l'attirait, et quand l'officier fut parti, Augustin dit à Alypius, son intime ami, témoin de l'entretien. « Et quoi? Que faisons-nous là? N'as-tu pas entendu? Les ignorants se lèvent, ils forcent le ciel. Et nous, avec notre science sans cœur, nous voilà vautrés dans la chair et le sang. Y a-t-il de la honte à les suivre? Et n'avons-nous pas plutôt honte de ne pas les suivre? » En parlant, il s'était écarté brusquement de l'ami auquel il s'adressait. Son accent et son visage disaient l'extrême violence de son trouble. Représentons-nous, Augustin, qui sort de la maison et s'avance dans le petit jardin plein d'arbres, et Alypius qui le suit pas à pas, tout interdit. Ils vont s'asseoir au fond du jardin. Ouvrons maintenant les confessions et lisons les pages magnifiques où le courant de la grâce qui soulevait une âme déjà presque sauvée est encore visible et entraînant. Je cite. Mon esprit frémissait et les vagues de mon indignation se soulevaient contre moi de ce que je ne me rendais pas encore à votre volonté, à votre alliance, ô mon Dieu, où toutes les puissances de mon âme me poussaient en me criant « Courage !» Et pour cela, il ne fallait ni navire ni char. Il ne fallait pas même franchir la distance qui nous séparait de la maison, et non seulement aller, mais arriver à vous n'était autre chose que vouloir, mais d'une volonté forte et pleine, et non d'une volonté languissante et boiteuse, se dressant à demi et se débattant encore contre l'autre moitié d'elle-même qui retombe. Car je me disais au-dedans de moi, « Allons, allons, point de retard !» Et mon cœur suivait déjà ma parole, et j'allais agir, et je n'agissais pas. Et je ne retombais pas dans l'abîme de ma vie passée, mais j'étais debout sur le bord, reprenant haleine. Et puis je faisais effort pour arriver, atteindre, tenir. De quoi s'en fallait-il? Et je n'arrivais pas, et je n'atteignais pas, et je ne tenais à rien. Hésitant à mourir à la mort, à vivre à la vie, je me laissais dominer plutôt par le mal, ce compagnon d'enfance, que par ce mieux étranger. Et plus l'inlassable instant où mon être allait changer devenait proche, plus il me frappait d'épouvante. Ni ramené, ni détourné pourtant, mon pas était suspendu. Et ces bagatelles de bagatelles, ces vanités de vanités, mes anciennes maîtresses, me tiraient par ma robe de chair et me disaient tout bas, « Est-ce que tu nous renvoies ? Quoi ? Dès ce moment, nous ne serions plus avec toi pour jamais ? Et dès ce moment-ci, cela ne te sera plus permis, plus jamais ?» Et tout ce qu'elle me suggérait dans ce que j'appelle ceci, cela, c'est qu'elle me suggérait, ô mon Dieu, que votre miséricorde l'efface de l'âme de votre serviteur. Quelle souillure, quelles infamies ! Et elle ne m'abordait plus de front, querelleuse et hardie, mais par de timides chuchotements murmurés à mon épaule, par de furtives attaques, elle sollicitait un regard de mon dédain. Elle me maintenait toutefois dans mon hésitation à les repousser, à me débarrasser d'elle, pour me rendre où j'étais appelée. Car la violence de l'habitude me disait « T'imagines-tu que tu pourras vivre sans elle ?» Mais déjà, elle ne parlait plus que d'une voix languissante, car du côté où je tournais mon front et où je redoutais de passer, se dévoilait la chaste majesté de la continence, m'invitant, non plus avec le sourire de la courtisane, mais par d'honnêtes caresses, à m'approcher d'elle sans crainte. Et elle étendait pour me recevoir et m'embrasser ses pieuses mains, toutes pleines de bons exemples. Tant d'enfants, de jeunes filles, une jeunesse nombreuse, tous les âges, des veuves vénérables, des femmes vieillies dans la virginité, et dans ces saintes âmes, la continence n'était pas stérile. Elle enfantait ces générations de joie céleste qu'elle doit, Seigneur, à votre conjugal amour. Elle me semblait dire d'une douce et encourageante ironie, « Quoi ? Ne pourrais-tu donc ce qui est possible à ses enfants ?» À ces femmes ? Est-ce donc en eux-mêmes et non dans le Seigneur leur Dieu que cela leur est possible ? C'est le Seigneur leur Dieu qui me donne à eux. Tu t'appuies sur toi-même et tu chancelles, et cela t'étonne ? Jette-toi hardiment à lui, n'aie pas peur. Il ne se dérobera pas pour te laisser tomber. Jette-toi hardiment, il te recevra, il te guérira. Cette lutte intérieure n'était qu'un duel de moi avec moi. Et Alypius, attaché à mes côtés, attendait en silence l'issue de cette étrange révolution. Quand du fond le plus intérieur, ma pensée eut retiré et amassé toute ma misère devant les yeux de mon cœur, il s'y éleva une affreuse tempête, chargée d'une pluie de larmes, et pour laisser fondre l'orage avec tous ses mugissements, je me levai, je m'éloignai d'Alypius. La solitude allait me donner la liberté de mes pleurs, et je me retirai assez loin pour n'être pas importuné, même par une si chère présence.